Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du mardi 2 avril 2019. Eki Abadou et Eric Maniarakiza à la présentation. Voici les titres.
Le président sénégalais Macky Sall prête serment pour un second mandat.
Aux Comores, la Cour suprême valide la réélection contestée du président sortant Azali Assoumani.
En Algérie, l'annonce de la prochaine démission du président Bouteflika accueillie avec méfiance.
Tout le monde s'accorde à dire que cette annonce de démission est un non-événement.
La société civile tanzanienne appelle le président John Magufuli à dialoguer avec l'opposition pour sauver l'unité et la paix du pays.
Le président Magufuli et crise alimentaire, plus de 113 millions de personnes dans 53 pays au bord de la famine, particulièrement en Afrique.
Ne ratez pas dans 10 minutes les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Une nouvelle phase dans la lutte contre le djihadisme au Mali a été amorcée. La force française Barkhane va désormais étendre ses efforts de l'autre côté du fleuve Niger, dans la zone adjacente du Gourma, frontalière du Burkina Faso. La force anti-djihadiste s'était jusque-là limitée à une série d'opérations militaires pendant un an et demi dans le Liptako, dans le nord-est du Mali. L'arrivée de Barkhane dans la région devrait mettre en mal les nombreux groupes armés qui y ont trouvé refuge. Je vous propose cet extrait du général Frédéric Blachan, commandant de l'opération Barkhane.
Le Liptako est à la frontière malo-nigérienne et le Gourma se trouve à la frontière malo-burkinabé. Et ces zones frontières sont évidemment les endroits les plus recherchés par les terroristes pour pouvoir mener leurs actions. Il n'y a pas mieux qu'une zone frontière pour pouvoir passer de l'une à l'autre et trouver refuge. Donc le Gourma représentait pour nous toutes les conditions requises pour être efficace. Quand vous êtes dans le Gourma, vous êtes, je dirais, à la poignée de l'éventail. Vous êtes en mesure d'apporter un appui au Burkina s'il venait à le souhaiter. Il a déjà requis l'appui de l'armée française en octobre dernier. Et tout le monde sait que bon, c'est un membre du G5, voilà, donc il a une légitimité complète à demander l'appui de la France. On est de tout cœur avec les populations qui ont subi de telles horreurs, mais je crois qu'il ne faut pas se lancer dans une espèce de surenchère pour savoir qui a le monopole de la souffrance. Voilà, je pense que ces communautés vivent depuis longtemps ensemble. Et l'objectif, voilà, il est d'éviter qu'on se lance dans une comptabilité macabre, de savoir qui souffre le plus.
Le général Frédéric Blachan, commandant de l'opération Barkhane.
Le président sénégalais Macky Sall a prêté serment aujourd'hui pour un second mandat en présence d'une vingtaine de ses pairs africains, promettant de poursuivre ses réformes et lançant un appel à un dialogue constructif avec l'opposition. Macky Sall s'est ensuite engagé à être le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais.
En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales.
C'est au centre des expositions de Djamnia Diou, la ville nouvelle bâtie à 32 km de la capitale, vitrine de son plan Sénégal émergent, PSE, lancé en 2014, que Macky Sall a choisi de prêter serment devant les 7 membres du Conseil constitutionnel.
La Cour suprême comorienne a validé aujourd'hui la réélection du président sortant Azali Assoumani lors du premier tour de l'élection présidentielle disputée le 24 mars, rejetée d'emblée par l'opposition qui a dénoncé des fraudes massives au pouvoir depuis 2016. Monsieur Azali a été crédité de plus de 59% des suffrages, loin devant le candidat du parti Joie, l'avocat Mahamadou Ahmada, qui a obtenu près de 16%.
En Algérie, l'annonce de la démission du président Abdelaziz Bouteflika avant le 28 mars ne semble pas déterrer la rue. Un millier d'étudiants ont manifesté de nouveau à Alger contre le pouvoir. Abdourahmane Dia.
non-événement ou encore poisson d'avril, la démission annoncée du président Bouteflika a suscité ce mardi plus de scepticisme que de joie dans les rues d'Alger. « Je me demande ce que ça cache », a réagi Yasmine, 30 ans, soupçonnant, comme de nombreux Algériens, une nouvelle manœuvre du président et de ses proches pour rester au pouvoir. Dans le cortège, cet étudiant en psychologie estime que la démission de Bouteflika n'apporte rien. « Nous réclamons un changement radical », a-t-il dit. Un autre estime que cette démission annoncée est une diversion car, comme après chaque mobilisation de rue, il cherche à gagner du temps. Pour le quotidien francophone El Watan, cela s'apparente à une demi-mesure qui laisse tout le monde sur sa faim. Confronté à plus d'un mois de contestations massives et inédites, M. Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, a annoncé qu'il quitterait ses fonctions d'ici la fin de son mandat le 28 avril.
Depuis maintenant plus de 2 ans, nous avons pu constater que les droits...
Nous nous excusons de cet incident technique. Poursuivons cette édition. Le principal opposant camerounais, Maurice Kamto, a refusé de prendre part aujourd'hui à une audience à huis clos sur sa demande de libération, exigeant que l'audience soit publique. Arrêté fin janvier, il a été écroué depuis à Yaoundé. Selon son conseil, Maître Emmanuel Sim, l'avocat général a pris ses réquisitions en l'absence de M. Kamto et de ses avocats, suggérant la confirmation du rejet en instance de la demande de libération immédiate introduite par l'opposant. Pour sa part, le juge a fixé au 9 avril la date à laquelle il rendra son verdict.
En Guinée équatoriale, le procès des instigateurs présumés du coup d'État que Malabo affirme avoir déjoué en décembre 2017 est suspendu depuis lundi, 10 jours après son ouverture à Bata. Plus de 150 personnes comparaissent devant le tribunal de Bata pour trahison et atteinte à la personne du chef de l'État, des motifs passibles de la peine capitale.
De la peine capitale plutôt. En Tanzanie, une soixantaine d'associations de la société civile dénoncent une série de mesures répressives contre l'opposition et demandent au président John Magufuli de dialoguer avec ses opposants pour sauver l'unité et la paix du pays. Morgane Guiriec pour les détails.
Depuis maintenant plus de 2 ans, nous avons pu constater que les droits démocratiques, la liberté de réunion et d'association se dégradent chaque jour. Pour nous, cette situation peut être vue comme une menace à l'unité nationale et une déstabilisation de la paix, écrivent les 65 associations dans leur déclaration. Ces organisations dénoncent notamment l'interdiction des manifestations et des rassemblements publics de l'opposition, la dispersion de réunions en salle ou encore les arrestations arbitraires de dirigeants et membres de partis de l'opposition avec l'aide de la police. Elles exigent l'amendement de la nouvelle loi sur les partis politiques, estimant qu'elle donne trop de pouvoir à l'organe qui les régule. Cet organe a annoncé la semaine dernière son intention de dissoudre le parti d'opposition ACT Wazalendo, qu'il accuse de dérive islamiste, ce que nie ce dernier. ACT Wazalendo est brusquement monté en puissance après le ralliement en mars du célèbre opposant zanzibari Seif Sharif Ahmad.
Plus de 113 millions de personnes dans 53 pays étaient au bord de la famine en 2018, particulièrement en Afrique. C'est ce que révèle le rapport mondial 2019 sur les crises alimentaires paru aujourd'hui. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Sur les 8 pays subissant les pires crises alimentaires dans le monde, 5 se trouvent sur le continent africain. La République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Soudan du Sud et la partie nord du Nigeria étaient en état d'insécurité alimentaire aiguë en 2018, selon ce rapport de la FAO. Avec près de 72 millions de personnes concernées, les pays africains sont touchés de manière disproportionnée par la faim aiguë. Les conflits sont restés la cause principale de l'insécurité alimentaire. Les 2/3 de la population confrontée à la faim aiguë étaient basés dans 21 pays ou territoires en guerre. Un chiffre qui reste stable par rapport à 2017. Dans ces pays, jusqu'à 80% des populations concernées dépendent de l'agriculture. La FAO préconise donc à la fois une aide humanitaire d'urgence pour se nourrir et des moyens pour relancer l'agriculture. En 2018, le nombre total de personnes au bord de la famine a légèrement diminué par rapport à 2017. Une baisse qui pourrait être tempérée en 2019 en raison des violents cyclones et ouragans au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi, dont les conséquences sur les récoltes vont être très importantes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde au Caire contre la haine des musulmans. C'est à la suite de l'attaque qui avait fait 50 morts le mois dernier dans des mosquées en Nouvelle-Zélande. Monsieur Guterres s'exprimait devant les responsables d'Al-Azhar, la célèbre institution de l'islam sunnite basée au Caire, après un entretien avec le grand imam Ahmed Al-Tayeb.
Le pape François a dénoncé les gigantesques intérêts économiques du monde numérique capables de manipuler des processus démocratiques. Il critique les circuits fermés entre personnes pensant de la même manière qui facilitent la diffusion de fausses informations et de fausses nouvelles fomentant les préjugés et la haine.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Total a démarré la production du projet Kaombo Soul en Angola dans le cadre d'un accord qui devrait accroître ses capacités de production générale. Kaombo Soul ajoutera 115 000 barils de pétrole par jour et portera la capacité de production globale à 230 000 barils par jour, soit 15% de la production de l'Angola. Son démarrage contribuera à la croissance de la trésorerie et de la production de Total cette année et au-delà. La Banque africaine de développement vient d'approuver une prise de participation de 12,5 millions d'euros dans le fonds d'Adiwale qui mise sur les PME à fort potentiel en Afrique de l'Ouest francophone à travers l'acquisition de participations minoritaires. Selon Financial Afrique, la société gestionnaire du fonds Adiwale Partners vise d'abord la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali, puis s'orientera vers le Togo, le Bénin et la Guinée. Adiwale vise une levée de 75 millions d'euros. Terminons cette minute éco avec la croissance du commerce mondial de marchandises qui devrait ralentir cette année après une croissance plus faible qu'escomptée en 2018 du fait de la montée des tensions commerciales.
En transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo ce soir. Yacouba, bienvenue encore une fois.
Merci Eric et bonsoir à tous.
On commence par le football bien entendu. On connaît les candidats au prix Marc Vivien Foué.
Oui Eric, RFI, Radio France Internationale et France 24 ont dévoilé les finalistes pour le prix Marc Vivien Foué 2019. Il s'agit de la récompense du meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. Parmi les nominés cette année, on retrouve quatre finalistes de l'année dernière. Wabi Kazri, Nicolas Pépé, Max-Alain Gradel et Bertrand Traoré. Les sept autres finalistes sont le Marocain Younis Abdel Hamid, l'Algérien Youssef Attal, le Camerounais Stéphane Baouken, le Gabonais Denis Bouanga, le Guinéen François Kamano, le Sud-Africain Lebo Motiba et le Sénégalais Ismaël Assar. Le successeur du Camerounais Karl Toko Ekambi, sacré l'année dernière, sera connu le 13 mai.
Le Burundi qualifié pour la prochaine CAN mais sanctionné par la CAF.
Et oui Eric, malheureusement pour vous, l'instance africaine reproche à la Fédération Burundaise de football la diffusion sur les antennes de la télévision nationale du match Burundi-Gabon comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le Burundi devra verser une amende de 10 000 dollars à la CAF. C'est lors de cette dernière rencontre décisive soldée par un score d'un but partout que les Hirondelles se sont qualifiées pour la première CAN de leur histoire.
Il faut aussi, Yacouba, ajouter que le président de la fédération a nié cette responsabilité et il a demandé qu'il y ait une enquête pour que les responsables de la radio-télévision nationale du Burundi payent cette amende. On va maintenant enchaîner avec la démission du président de la Fédération allemande de football.
Et oui, Reinhard Grindel a annoncé sa démission après les révélations sur la montre de luxe que lui a offerte le vice-président ukrainien de l'UEFA, Yuri Soukis. Je suis profondément bouleversé de devoir quitter les fonctions du président de la Fédération allemande de football à cause d'un tel comportement, a indiqué M. Grindel, 57 ans, faisant référence au fait d'avoir accepté en cadeau une montre d'une valeur de 6 000 euros. Il était à la tête de la Fédération allemande de football depuis avril 2016 et est le deuxième patron consécutif à devoir quitter prématurément la présidence de la fédération.
Enfin, on va terminer avec les travaux de refonte du stade Bernabeu qui vont être lancé cet été.
Oui, Eric, ces travaux de remodelage visent à doter l'enceinte d'un toit rétractable d'ici 2022. Cette refonte pour un budget d'environ 500 millions d'euros. Le chantier doit s'achever dans 3 ans et demi plus tard, sans perturber le calendrier sportif de l'équipe madrilène.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et Kiabadou Eric Manirakiza, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Nous poursuivons notre série de reportages sur le 25e anniversaire du génocide au Rwanda. Notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fad, est allé à la rencontre des jeunes qui sont nés après le génocide et tente aussi de savoir quelle relation ces jeunes rwandais ont avec le passé tragique de leur pays. Le témoignage de Nishime Sabrina, une jeune rwandaise âgée de 21 ans.
Je m'appelle Nishime Sabrina, je suis née en 1998, donc 4 ans après. Le génocide. J'ai 21 ans maintenant.
Comment est-ce que vous avez appris qu'il y a eu un génocide ici?
Bon, on a appris ça par différents médias, par nos parents, par les histoires que nos grands-parents ont racontées. Oui, c'est comme ça qu'on a appris ça, les histoires qui s'est fait au Rwanda en 1994.
Est-ce que pour vous, c'est une relation de tristesse et un passé lointain? Quel rapport avez-vous avec le génocide?
Il n'y a pas de grand-chose, il n'y a pas un grand rapport. On n'était pas là. On est né après ça. Mais on a un rapport parce qu'on a des parents, on a des grands-parents qui ont vu ça. Il y a peut-être des relations qui sont des victimes qui sont mortes dans le génocide. Donc il n'y a pas de grand-chose personnellement, mais ça nous affecte indirectement parce qu'on a nos grands-parents et nos parents qui ont vu ça.
Comment est-ce que vous vivez actuellement au Rwanda? Comment voyez-vous l'avenir?
L'avenir est très rassuré. On voit que notre pays avance peu à peu. Il y a des jeunes qui contribuent à notre développement. Le Rwanda, il développe très bien maintenant. Alors, personnellement, on le vit très bien. On a appris du passé. C'était vraiment mal. Et on essaye de reconstruire notre pays.
Est-ce que vous avez des relations ethniques avec d'autres Rwandais? Parce qu'avant le génocide, il y avait beaucoup d'importance à ce que les gens disent Hutu ou bien Tutsi, ce qui a fait beaucoup de mal à ce pays. Aujourd'hui, en tant que jeune, quelle est la relation que vous avez avec les autres Rwandais?
Notre relation est très bien. On le vit très bien. Oui, il y a des gens qui sont toujours entre... Comme les grands-parents, on a des grands-tantes qui disent « Non, tu dois pas te marier avec un Hutu parce qu'ils nous ont fait ça et ça. » Mais ça se diminue les années et les années. Les gens comprennent que on est tous des Rwandais. Il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi. Donc oui, on le vit bien maintenant. Ça s'améliore.
Est-ce que demain, si vous êtes Tutsi, vous pouvez vous marier avec un Hutu inversement?
Oui, on le peut, oui. C'était vraiment pas très bien avant parce que les parents s'opposaient. Oh, c'est le Hutu, tu peux pas te marier avec lui. Mais maintenant, il le sait, on est tous des Rwandais. On essaie de leur comprendre que c'est pas basé sur les Hutus, les Tutsis. On est tous des Rwandais maintenant.
Vous êtes l'avenir du Rwanda. Vous êtes la jeunesse du Rwanda. Est-ce que vous pensez que ce pays va vraiment s'en sortir et que le génocide soit un lointain souvenir, loin derrière vous?
Ça fait 25 ans maintenant. Donc il va se reconstruire, ça va s'oublier. C'est oublié maintenant, même s'il y a peu de gens qui n'ont pas oublié ça. Mais c'est vraiment oublié et on avance très bien.
Témoignage de Nishimwe Sabrina au micro de notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall.
Le président sénégalais Macky Sall a débuté son deuxième et dernier mandat de 5 ans à la tête du pays. Il a renouvelé son appel au dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays. Il a aussi promis de poursuivre ses réformes. Pour parler des enjeux de cette nouvelle législature de Macky Sall, Morgan Guiriec a joint à Dakar l'analyste Ibrahima Kane.
C'est des enjeux politiques parce que le seul pays est sorti divisé de cette campagne électorale. Vous voyez que même lors de la cérémonie de prestation de serment
avec aucun représentant de l'opposition. Deuxième chose, il faut régler les problèmes sociaux du pays. C'est un pays très, très pauvre. Beaucoup d'efforts ont été faits dans les grandes villes, mais la majorité des Sénégalais continuent d'habiter dans le monde rural. Comment vraiment faire en sorte que les Sénégalais aient l'eau, l'électricité, les services sociaux de base? Le troisième enjeu qui me paraît, moi, le plus fondamental, comment créer un nouvel art de gouverner et qui est capable de sortir le pays des pratiques politiques et sociales héritées de la colonisation et des précédents régimes.
Vous avez parlé d'un paysage politique très divisé. Pourtant, le président Macky Sall a lancé un appel à l'opposition pour dialoguer. Où est-ce qu'on en est?
Au point zéro, parce que simplement, dans l'opposition, on a le sentiment d'être utilisé par le président de la République. Pendant ces 7 années de pouvoir, il n'y a pas eu de dialogue. Il avait dit que le parti avant le parti. Mais dans la pratique, on a vu que c'est le parti qui a été privilégié. La Constitution prévoit un statut de l'opposition. Le statut en tant que loi n'existe pas encore. Tant qu'on n'a pas ce genre de cadre juridique qui organise les relations entre l'opposition et le pouvoir, comment voulez-vous qu'il y ait un dialogue?
Concernant les aspects sociaux, hein, le Sénégal s'apprête à devenir producteur de pétrole. Est-ce que là, il y a une opportunité?
Personnellement, je reste très prudent sur la question du pétrole. Dans beaucoup de cas de la sous-région, le meilleur étant notre voisin de la Mauritanie, qui a découvert le pétrole il y a peut-être 7 ou 8 ans, a rien changé dans le pays. Et donc, ça risque même de créer plus de problèmes que ça n'en résoudra. Les sociétés pétrolières qui viennent s'installer dans le pays signent des contrats totalement léonins avec les gouvernements. Ils prennent 70%, les gouvernements n'ont que la portion congrue de ces contrats-là. On risque de susciter de l'espoir au niveau de la population qui va croire que ces problèmes sont réglés. Pour moi, le travail de l'État, c'est d'abord d'être très transparent sur les contrats. Ce pétrole, c'est pas ça qui va nous faire sortir de notre situation. Ce qui va nous faire sortir de notre situation de pauvreté, c'est l'engagement des Sénégalais, c'est l'organisation des Sénégalais, c'est l'éducation de la population, c'est une meilleure santé pour la population.
Ibrahima Kan, analyste politique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Algérie, les étudiants ont continué de se mobiliser pour manifester leur opposition au maintien du régime, même après l'annonce de démission à venir du président Abdelaziz Bouteflika avant l'expiration de son 4e mandat le 28 avril. Quelles sont alors les nouvelles revendications? Aïssa Girondin a joint à Alger le journaliste du HuffPost Algérie, Mahdi Alioui, pour les derniers développements.
Tout le monde s'accorde à dire que cette annonce de démission est un non-événement. Pour beaucoup de personnalités politiques, Abdelaziz Bouteflika et son mandat ne posent plus problème. La majorité réfléchissent maintenant à comment mener une transition ou à comment dégager pour reprendre un peu les slogans des manifestants, comment dégager le système actuel.
Les citoyens algériens continuent à manifester. Quelles sont désormais leurs nouvelles revendications?
Pour réexprimer déjà le rejet du nouveau gouvernement que Abdelaziz Bouteflika a nommé ça fait 2 jours, mais aussi pour réitérer leurs revendications qui sont le départ intégral du système actuel dans son intégralité, c'est-à-dire non seulement le président Abdelaziz Bouteflika, mais également ses ministres, également les cadres qui ont œuvré à la gestion du pays avec lui durant ces 4 derniers mandats, durant les 20 dernières années. Les manifestations maintenant s'inscrivent dans une nouvelle démarche, et celle de maintenant exprimer le rejet du système actuel.
Aujourd'hui, c'est mardi, c'est la journée de manifestation réservée aux étudiants. Qu'est-ce que ces jeunes Algériens dénoncent spécifiquement?
En interrogeant les étudiants, ils me disaient que ce gouvernement n'est pas nouveau, vu que les nouveaux nominés faisaient déjà partie du système. Ils réitèrent leur rejet parce qu'ils estiment que le même Premier ministre, en l'occurrence Nordin Bedoui, qui a organisé les élections passées, donc il est accusé un peu de fraude, ils estiment que ce gouvernement, puisqu'il est chapeauté par la même personne, en l'occurrence ce nom de Bedoui, ils estiment que les élections qui seront menées après la période de transition ne sauront être transparentes. Et ainsi, les étudiants ont voulu aujourd'hui réexprimer leur manque de confiance à l'égard de ce gouvernement et réitérer encore une fois leur revendication de voir le système dégagé dans son intégralité.
Alors, suite à cette annonce et la formation de ce nouveau gouvernement, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours en Algérie ?
Sincèrement, le communiqué, il n'y a pas plus de précision. Le communiqué n'a même pas donné une date précise. Ils ont juste dit qu'ils n'ont pas démissionné avant la fin de son mandat. Ça peut même arriver le 27, même si la fin de son mandat prend fin le 28, en fait. En fait, actuellement, il y a des rumeurs qui annoncent le limogeage du président du Conseil de la Nation, Abdel Salah, et son remplacement par une autre personne. Certains évoquent le nom de Abdallah Mamra, qui était, ça fait juste quelques jours, ministre des Affaires étrangères. C'est ce que tout le monde s'attend. Ils s'attendent à des remaniements à la tête des principales institutions de l'État, selon la version officielle, c'est-à-dire selon le communiqué du président de la présidence. Les remaniements vont, pour eux, faciliter la transition.
Mardi, Alioui, journaliste du HuffPost Algérie, à Alger.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara était à l'Assemblée nationale hier à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2019. Monsieur Ouattara en a profité pour faire un tour d'horizon des défis qui se posent à sa nation. Il a entre autres évoqué la question de l'élection présidentielle de 2020, affirmant qu'il est convaincu que tout se passera dans une bonne ambiance, comme cela a été le cas en 2015. Pour une réaction, Yacouba Ouédraogo a joint le docteur Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, une organisation de la société civile.
C'est une très bonne chose que la rhétorique du président appelle à la paix. Encore faut-il que cette rhétorique soit suivie d'effets dans la vie publique. Rappelez-vous simplement que depuis le 1er janvier, le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, a mis sous tutelle un certain nombre de localités après les municipales. Même si la légalité de la loi sur la gestion des localités n'était pas violée, et donc ces actes qui sont frappés d'illégitimité en termes de perception des populations posent quelques petits soucis par rapport à la rhétorique du président. Deuxième point rapidement. Il y a eu l'incarcération d'un député pour un tweet de flagrant délit, alors que lors du procès, la partie accusatrice, c'est-à-dire la partie du procureur, n'a pas pu présenter le tweet. Donc, la perception encore des populations par rapport à un député qui est censé porter l'immunité, tous ces faits-là font que nous, en tant que membres de la société civile, on s'inquiète un peu.
Blé Goudé, qui est sorti de prison et qui appelle à la réconciliation et au pardon. Guillaume Soro, qui fait le tour de la Côte d'Ivoire, des tiraillements au sein du FPI. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas matière à craindre?
Non. Aujourd'hui, quand vous voyez cette recomposition-là, elle devra se faire un jour ou l'autre parce que le PDCI, qui était le parti majoritaire, avait gouverné seul. Ensuite, le RDA est sorti du PDCI. Et aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est ce qu'un pays normal qui a une démocratie vivante doit vivre. La seule chose que nous craignons, c'est qu'il faut que ces mouvements de recomposition de partis politiques, des gens qui passent du PDCI au RHDP, RHDP-PDCI, RHDP composition politique de Soro Guillaume, tout cela, si ça se fait sans crise majeure en termes d'intimidation, d'arrestation et de meurtre, c'est positif pour la démocratie ivoirienne.
Est-ce qu'il ne faut pas craindre souvent, vu le ton qu'utilisent ces acteurs politiques-là, souvent ça va à l'extrême?
En même temps que des caciques continuent d'avoir une rhétorique guerrière, en même temps une grande majorité des citoyens a évolué, une grande majorité d'acteurs politiques a évolué vers, je dirais, une bataille d'idées. Donc, nous pensons personnellement que personne ne veut que les 3000 morts, la crise post-électorale se répète.
On sait que le président Alassane Ouattara avait déjà appelé l'ancienne génération, selon ses propres thèmes, a cédé la place à la nouvelle génération de politiciens. Est-ce que vous pensez que cela puisse se produire en 2020?
Inéluctablement, la nouvelle génération va prendre la place de l'ancienne génération. Quoi qu'il fasse, Alassane a autour de 80 ans, Bédia a 80 ans, Gbagbo a 80 ans, qu'il le veuille ou non, il va avoir un passage de flambeau. Une grande partie des citoyens qui n'appartiennent pas à la classe politique appellent aujourd'hui à ce que les acteurs politiques parlent de leurs idées. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer pour la lutte contre la corruption? Qu'est-ce qu'ils ont à proposer pour l'école ivoirienne qui est en crise depuis 3 mois? Qu'est-ce qu'ils ont à proposer pour la santé? Et donc, que ces signaux faibles-là vont prendre le dessus d'ici 2020 sur les signaux forts qui sont la rhétorique guerrière.
Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, joint à Hanoï, au Vietnam.
C'est c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges et Léonard Sagnon, à la console, Karl Sterling, à la présentation, Eki Abadou et Eric Manilakis.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour une actualité 24 heures sur 24. Excellente suite de programme à l'écoute de VO Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. VOA